Alors bonsoir, chers écrivains, chères écrivaines, chers amis de la rencontre. Il me fait extrêmement plaisir d'ouvrir la 37e rencontre québécoise internationale des écrivains qui est organisée, rappelons-le, sous l'égide de l'Académie des lettres du Québec. Rappelons que la rencontre québécoise internationale des écrivains a été fondée en 1971 par Jean-Guy Pilon, qui l'a dirigée jusqu'en 1997. Puis, elle a été prise en charge par M. Jean Royer de 1997 à 2005 et par Mme Nicole Brossard de 2005 à 2008. C'est forte de leur expérience que je prends cette année la relève, appuyé par un comité de direction exceptionnel que je veux vous présenter. Alors, peut-être que vous pourriez vous lever. Madame Nicole Brossard, qui est dans la salle. Madame Denise Desautels, je ne sais pas où elle est. Madame Hélène Dorion. Monsieur Naïm Catan, je ne sais pas où est Naïm, et Monsieur Pierre Neveu, qui est là. Depuis 1971, cette fête de la littérature, qui constitue un événement unique en son genre au Québec et au Canada, a accueilli près de 500 écrivains de 50 pays différents, qui se sont penchés avec des écrivains québécois sur des thèmes stimulants. Cette année, nous avons privilégié le thème de « mémoire » au pluriel. Tous les sens du mot seront donc explorés, la mémoire individuelle et la mémoire collective, la mémoire autobiographique et celle qui nous vient de nos lectures, la mémoire vraie, entre parenthèses, et ce qu'on appelle la fausse mémoire, la mémoire passée au filtre de l'oubli ou de la fiction, la mémoire du Québec en lien avec celle du monde. Radio Spirale mettra à votre disposition, grâce à son système de balado-diffusion, les conférences et les échanges de la rencontre. De plus, les textes des conférences seront placés sur le site Internet de l'Académie des lettres du Québec. Je tiens aussi à vous inviter à une lecture publique demain soir à 17h30 à la Maison de la culture Plateau-Mont-Royal où vous pourrez entendre une dizaine d'écrivains invités cette année. Deux autres événements publics auront lieu. Mercredi 22 avril à 20h aura lieu une table ronde sur la mémoire dans le cadre du festival Métropolis Bleue et le dimanche 31 mai, une autre table ronde se tiendra dans le cadre du marché de la poésie. Je tiens à rappeler que la rencontre est organisée principalement grâce à des subventions du Conseil des arts et des lettres du Québec, du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts de Montréal, de même qu'avec le soutien du Consulat général de France, du Consulat général du Mexique, de la délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, de l'Institut culturel italien, du ministère de la culture d'Algérie, du ministère de la culture de l'Espagne, du ministère de la culture de l'enseignement supérieur et de la recherche du Luxembourg, de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, et du ministère des Affaires étrangères du Canada. L'UNEC, Radio Spirale, CIBL, la librairie Le Port de Tête, le Festival international de Montréal Métropolis Bleue et le marché de la poésie de Montréal sont partenaires de l'événement. Je remercie chaleureusement tous nos subventionnaires et nos partenaires de leur soutien, ainsi que Mme Lise Gauvin, Messieurs Georges Leroux et Jean-Claude Corbeil, respectivement présidente, vice-présidente et secrétaire général de l'Académie des lettres du Québec. Merci aussi à l'Union des écrivaines et écrivains du Québec qui nous accueille ce soir dans ce grand lieu de mémoire qu'est la Maison des écrivains. En collaboration avec la rencontre, l'UNEC vous offrira, après la conférence de Paul Chamberlain, un verre de l'amitié, de sorte que vous aurez l'occasion de rencontrer les écrivains invités que je désire vous présenter. Alors, je demanderai aux écrivains invités de se lever. Alors, Madame Claude Bert vient de France. Madame Rosemarie François de Belgique. Madame Samira Negrouche d'Algérie, qui est en arrière. Monsieur Daniele Pieroni d'Italie. Monsieur Juan Manuel Rodriguez Tobal d'Espagne. Monsieur Alberto Ruiz Sanchez du Mexique. Monsieur Lambert Schlechter du Luxembourg. Et monsieur Alexandre Voisard de Suisse. Oui, monsieur Voisard. Madame Georgette Leblanc d'Acadie n'est pas encore arrivée, elle va arriver très bientôt. Alors, du Québec, évidemment, monsieur Paul Chamberlain, qui va vous parler tout à l'heure. Madame Anne Charney, qui est ici. Madame Diane Monique Davio. Monsieur Bertrand Gervais, qui va arriver dans la soirée. Monsieur Louis-Philippe Hébert, est-ce qu'il est arrivé? Pas encore. Madame Tania Langlais, qui va arriver dans la soirée. Madame Rachel Leclerc. Monsieur Jean-Éric Riopel. Et monsieur Rodney Saint-Éloi. Je ne sais pas s'il est arrivé. Oui, il est là. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir accepté notre invitation. Et pour vous qui êtes ici présents, vous aurez l'occasion de vous procurer leur livre grâce à une table de vente tenue par la librairie Le Port de Tête. Alors, je vous souhaite une très agréable soirée et je cède la parole à mon collègue Pierre Neveu.
Alors, bonsoir. Alors, c'est la première fois que j'ai la chance de présenter Paul Chamberlain. Et c'est un peu un lieu commun du genre de la présentation que de commencer avec un souvenir, se remémorer quelque chose. Alors, c'est sûr que dans le contexte d'une rencontre sur la mémoire, c'est peut-être que ça va paraître un peu moins convenu. Je remonte assez loin en arrière, 1965, Collège Sainte-Marie. J'ai pas encore 19 ans. J'ai jamais vu en personne un écrivain ou un poète, ni québécois, ni bien sûr étranger. Et Paul Chamberlain, qui à l'époque est auteur de Terre-Québec, publié en 1964, et de l'afficheur Hurle, mais là je ne me souviens pas si c'était déjà paru ou c'était sur le point de paraître. Paul Chamberlain, qui est à l'époque un des grands animateurs de la revue Parti pris, que mes amis et moi dévorons chaque fois qu'il en sort un numéro. Paul Chamberlain, donc, vient nous parler de son travail de poète, de sa revue, de la situation politique. Ma mémoire est défaillante, je dois dire, à plusieurs égards. Je me souviens assez peu du contenu, mais je dois dire que ça évoque pour moi un certain nombre d'effacements ou de deuils, des pertes qui, par rapport à aujourd'hui. D'abord, le collège où a lieu cette rencontre a été démoli. Les démolitions, comme vous le savez, sont des espèces de trous de mémoire urbains. Il reste le Jésus qui est à côté, mais le collège lui-même est effacé. La revue Parti pris n'a pas vécu très longtemps. Elle est disparue, elle aussi, en 1968. Et je dirais, le poète Chamberlain lui-même, en tout cas celui de cette époque-là, se reconnaîtrait probablement peu dans l'écrivain qu'il est devenu au cours des quatre dernières décennies. Il a été, d'ailleurs, une des grandes figures de ce qu'on a appelé la poésie du pays. Mais ce qui frappe, c'est la vitesse avec laquelle il a remis en cause cette identité-là, c'est cette aptitude à non seulement à remettre en cause, mais à savoir, finalement, un peu oublier le personnage qu'il avait été. Évidemment, les ruptures sont souvent d'autres manières d'être fidèle à soi-même, c'est évident. Mais il reste que le changement est quand même assez spectaculaire. Poète de la mémoire, Paul Chamberlain, probablement pas quand on connaît son œuvre plus récente, mais je dirais qu'il a commencé à écrire à une époque où il semblait exister, il semblait aller de soi qu'il y ait un usage de la mémoire, en particulier un usage de la mémoire historique. Je trouve assez significatif que Pierre Vallière, qui a publié donc Nègre blanc d'Amérique chez Parti pris, donc aux éditions Parti pris en 1967, cite Fernand Dumont dans son ouvrage. Je cite: les sociétés complexes dont nous héritons prendraient fatalement la figure d'un pesant déterminisme si nous ne pouvions, grâce à l'histoire, en saisir la genèse et le sens et ainsi les restituer à la liberté de nos options. Il y a toujours eu, je pense, et je pense que c'est un trait d'époque, le sentiment que la mémoire était une force agissante, c'est-à-dire une manière d'interpréter le monde, mais aussi en vue de transformer, un moteur de l'action sur le monde. Et je pense qu'à cet égard-là, c'est sûr que Paul Chamberlain a été un poète de la mémoire, d'une mémoire à la fois personnelle et collective, vécue essentiellement sur un mode négatif à l'époque, sur le mode de l'enfermement, de l'étouffement, de la mort imposée et acceptée, et, d'un non-sens généralisé, je dirais, transmis à travers les générations. Bon, on peut penser à un certain nombre de textes dans Terre-Québec, je suis né aux neiges les plus mortes, dans mon cœur d'enfant, on a planté le haut sapin vertical de la mort. Dans l'afficheur Hurle, en la ruelle Saint-Christophe s'achève un peuple jamais né, une histoire à dormir debout, un conte qui finit par le début. Alors donc, je dirais que l'usage ou l'effet de cette mémoire négative qui est assumée à l'époque ne peut être que la révolte radicale, et elle culmine dans certains ouvrages, je pense à l'inavouable entre autres, par des phrases très violentes du genre « tuer ou crever ». Bon. Il arrive que la mémoire soit dévastatrice, qu'elle mène à une impasse et à la mort. Et alors, c'est peut-être la mémoire elle-même qu'il faut tuer. Et il me semble qu'il y a quelque chose de ça, ensuite, dans le travail de Paul Chamberlain. Les livres qu'il écrit dans les années 70, et c'est peut-être la première étape, la plus spectaculaire, je dirais, s'écrivent radicalement sous le signe du présent absolu, de l'avenir utopique. Je pense à « Demain les dieux naîtront » et aux ouvrages calligraphiés qui vont suivre, dans lesquels ce qui importe, c'est le recommencement du monde sur de nouvelles bases, l'avènement d'une conscience globale, animé par un élan à la fois érotique et cosmique, une conscience qui ne peut que rendre caduque, à tout le moins très problématique, tout recours à une histoire exemplaire et même à une mémoire purement négative qu'il s'agirait de liquider. En fait, il s'agit de passer à autre chose. Je cite cette phrase: « L'intégrale conscience de soi supprime à mesure toute connaissance de soi qui la précède. » Donc, une position très forte par rapport à une sorte de dénégation de la mémoire et même de la mémoire de soi. Dans ce contexte, même la Révolution québécoise, qui reste présente quand même autour de 1980, par exemple, chez Paul Chamberlain, n'est pas complètement oubliée, mais elle s'inscrit désormais non plus dans une mémoire blessée à mort, orpheline de toute histoire, mais dans le projet utopique d'un territoire d'accueil et de convergence terrestre. En fait, le Québec souverain deviendrait ce territoire d'accueil et de convergence terrestre. Il y a une autre étape que je situerai autour des géogrammes, axée sur le multiple événement terrestre, où il y a l'idée que nous vivons dans un monde essentiellement événementiel, mais que cette pléthore d'événements équivaut précisément au non-événement. Il se passe tant de choses qu'il ne se passe plus rien, sinon un processus de dégradation générale de l'humain, une sorte de présent absolu, qui, loin d'être une perpétuelle renaissance, est plutôt celui d'une mort en cours, et qu'il puisse y avoir là une espèce de pratique de l'amnésie imposée, et très douloureuse d'ailleurs, on le devine volontiers. La troisième étape, plus récente, mais je vais vite et de toute façon les étapes se superposent, c'est la pleine prise en charge, et ceux qui ont lu les livres plus récents, je pense à Une politique de la douleur par exemple, c'est la pleine prise en charge d'un processus apocalyptique, d'une pensée de la fin, qui trouve son point culminant donc dans certains essais, et je pense au sous-titre de Une politique de la douleur, pour résister à notre anéantissement. Donc, la planète, l'humanité elle-même se trouve soumise à une altération qui semble irrésistible. C'est tout le processus économique et politique qui semble œuvrer à une dénaturation fondamentale de l'humanité qui se vérifie pour le moment dans ce que Chamberlain appelle un autisme social. Le salut, en tout cas s'il est possible, ne saurait résider dans un retour en arrière, mais dans une sorte de solidarité, une conscience de notre fragilité et de l'inévitabilité de notre mort. Tout ça pour dire que le statut de la mémoire ne cesse de se poser de façon indirecte, mais très forte, précisément dans la mesure où on a l'impression très souvent chez Paul Chamberlain que c'est une mémoire empêchée, que c'est tout notre rapport au mémoriel qui se trouve menacé. Évidemment, on pourrait dire aussi, du même coup, que Paul Chamberlain, dans tous ses ouvrages, ne cesse de témoigner et même d'être le mémorialiste de cette humanité dont il voit la dégradation. Alors, je suis sûr qu'aujourd'hui, il va développer plusieurs de ces thèmes-là. Je vais quand même conclure en rappelant des faits un petit peu plus concrets et précis. Rappeler que Paul Chamberlain a publié plus d'une trentaine d'ouvrages depuis 1962. Qu'il a fait paraître en 2008 un livre de carnet, Cœur creuset, des carnets qui recoupent la période 1997-2004, que son œuvre aussi ces dernières années a été couronnée par plusieurs prix, des prix de l'essai, le prix Victor Barbeau, le prix de la revue Spirale, des prix de poésie, le prix des terrasses Saint-Sulpice et celui de la Société des écrivains canadiens, et surtout en 2007, le prix Athanase David du gouvernement du Québec pour l'ensemble de son œuvre. Alors, je vous invite tous à écouter Paul Chamberlain.
Merci Pierre pour ces mots. Ça donne un peu le vertige, toute cette traversée. Chers amis, chers invités, j'ai intitulé ma conférence d'après, vous allez voir, en fait ce sont des mots de Walter Benjamin, un écho de voix désormais éteinte. Pour commencer, je vais citer un passage de « La détresse et l'enchantement » de Gabriel Auroi. « De la naissance à la mort, de la mort à la naissance, » nous ne cessons par le souvenir, par le rêve, d'aller comme l'un vers l'autre à notre propre rencontre, alors que croît entre nous la distance. De quoi devrait-on se souvenir? Et pourquoi le devrait-on? On fait valoir des raisons. Dans certains cas, ne serait-il pas préférable d'oublier? Oublier revient parfois à pardonner. Mais ces questions me semblent piégées. Voilà ce qui retient d'abord mon attention. Je me suis rendu compte, en les formulant, que leur tournure retenait le ton de celles qui surgissent parfois au cours de conversations ou de discussions. Il n'est pas rare qu'on y entende, sous l'interrogatif, un impératif. « Fais ce que je te dis, rappelle-toi. » Ou encore, oublie ça. Le ton seul suffit à marquer la différence. S'il y a piège, et je crois qu'il y en a un, on doit soupçonner une visée prédatrice. Mais dans une situation d'interlocution, qui est la proie et qui le prédateur? Qui piège qui? Puisqu'il y a échange de la parole, la distribution des rôles n'est pas forcément arrêtée. L'échange peut entraîner leur renversement. Pensons au cas qui n'a rien d'exceptionnel, où l'on s'enjoint à soi-même « Allons, rappelle-toi » ou encore « Oublie ». A-t-on ou non raison de s'adresser à soi sur ce ton? Au cours de ce colloque intime avec soi, n'y en a-t-il pas un qui cherche à circonvenir l'autre? Comment savoir? Dans un débat, qu'il ait lieu en soi ou encore entre interlocuteurs, des voix se font entendre, des voix. On peut décrire la chose ainsi à la condition de ne pas attribuer ces voix à des sujets bien établis dans leur identité, y compris dans le cas de l'entretien avec soi, où l'on serait porté à tenir les voix qui s'y font entendre, au moins deux, pour la seule expression d'opinions divergentes, et ce, parce que l'on ne songe pas à mettre en doute ce qu'on croit être son unicité, une ipséité sans reste, indivisible, comme on le dit, de la souveraineté. Qui piège qui? Dans cette affaire de prédation, on imagine d'emblée que le prédateur met en œuvre une stratégie destinée à duper l'autre de manière à l'avoir à sa merci. Il se fait fort de tendre vers lui un filet d'arguments qui le forcerait à capituler. Tu dois te rappeler et te rappeler exactement ce que je te dis de te rappeler. L'un des interlocuteurs prétend contraindre l'autre à donner son assentiment à un récit, au seul récit qui serait le vrai. Celui qui prétend catégoriquement au vrai, dans le récit qu'il fait de ce qu'il faudrait se rappeler, donne du coup à entendre que ce récit serait exempt de fiction. Il se croit par conséquent à l'abri de toute duperie. Que dans nos discours, intérieurs ou non, nous ne puissions échapper au risque de nous piéger nous-mêmes, nous sommes bien obligés, dans certaines circonstances, d'en convenir. Le simple fait de commettre, comme on dit, un lapsus, nous coupe tout faux fuyant. La chose est souvent drôle et sans gravité. L'on s'en avise, du reste, la plupart du temps sur le coup. On n'en ressent pas moins un léger désagrément, comme si quelqu'un avait usurpé ma voix pour me faire dire ce que je ne voulais pas dire et que pourtant j'ai dit. Quelqu'un, à mon insu, tapis en moi, sans visage, sans identité repérable, prendrait l'initiative de me faire savoir des choses dont je n'aurais pas pris conscience ou que je n'oserais pas m'avouer. Et c'est lui, ce quelqu'un, qui disposerait alors de moi, moi qui suis censé savoir ce que je veux dire, comme d'une marionnette. Comment ne pas s'en inquiéter? Que devrait-on se rappeler? Pour quelle raison le devrait-on? Que fait-on quand on ramène à la mémoire le passé, tel passé? D'après quoi en élabore-t-on des récits? Notamment ces récits qui concernent un grand nombre, parce qu'il y est question d'événements historiques. Outre les lapsus et les actes manqués, la psychanalyse a depuis longtemps attiré notre attention sur les faux souvenirs ou les souvenirs écrans. De quoi pourrait-on se souvenir? Mais surtout, quelles précautions prendre quand on le fait? Nous nous échangeons des récits communs. Certains concernent l'humanité. Comment ne pas s'inquiéter de la part de fictions qui entrent dans ces récits? J'entends ces fictions qui ne sont pas reconnues comme telles et qui, au contraire, passent pour des évidences indiscutables. S'immisçant dans nos récits à la manière de lapsus ou de faux souvenirs, elles nous piégeraient dans notre dire. Elles s'approprieraient notre voix pour nous faire raconter, comme des marionnettes, tout autre chose que ce que nous croyons connaître. Walter Benjamin a rédigé peu de temps avant sa mort en 1940 ses thèses sur le concept d'histoire. Dans la première, il met en scène un automate joueur d'échecs, une marionnette en costume turc, comme il le décrit, pièce d'un dispositif comprenant une table apparemment transparente de tous côtés, grâce à un système de miroirs qui dissimulait un nain bossu. Cette créature qui tient les ficelles rappelle au lecteur de Benjamin le petit bossu qui fait son apparition dans le dernier fragment d'une enfance berlinoise. Sans jamais se laisser voir, il n'en terrorisait que mieux le jeune garçon de son regard perçant, le poussant à commettre des maladresses. Là où il apparaissait, je n'avais plus qu'à contempler les dégâts. Le micro a l'air d'accord. C'est un tour du petit bossu. L'appareil que je viens de décrire, d'après les mots de Benjamin, l'appareil a son équivalent en philosophie, dit Benjamin. Je cite, « La marionnette appelée matérialisme historique est conçue pour gagner à tout coup. » Mais qui est le nain bossu? La théologie. La théologie, ajoute Benjamin, est aujourd'hui petite et laide, et elle est de toute manière priée de ne pas se faire voir, comme le petit bossu. Les ruines qui, dans la neuvième thèse, s'accumulent au pied de l'ange de l'histoire, qu'une violente tempête venue du paradis pousse irrésistiblement vers l'avenir auquel il tourne le dos, ces ruines ne forment pour lui que le résultat d'une seule et unique catastrophe, là où nous apparaît une chaîne d'événements. Cette tempête, conclut Benjamin, est ce que nous appelons le progrès. Le récit que nous n'avons cessé d'élaborer de nos prouesses, entre autres techniques, nous serait dicté à notre insu. Naguère, matérialisme historique, aujourd'hui démocratie de marché, le joueur d'échecs gagnerait à tout coup de changer allègrement de défroque, rejetant au besoin l'uniforme du commissaire politique pour revêtir l'impeccable complet du spéculateur de Wall Street. Ce récit-là n'est-il pas l'un des grands récits de la modernité, celui du progrès? Nous y croyons toujours, en dépit des réserves, de la méfiance, voire de la mélancolie postmoderne qui refroidit notre verve de narrateur. Comment nous résoudre, sans effroi ni amertume, à convenir que nous sommes manipulés? Mais de quelle façon démêler les fils de ce qui a tout l'air d'une fabulation paranoïaque? J'ai déjà parlé du désagrément que nous occasionne lapsus et acte manqué. Nous ferions bien de ne pas les croire réservés à la seule sphère du personnel ou du privé. Les récits de notre histoire depuis plus d'un siècle en comportent un assez grand nombre. Je n'en veux pour exemple récent que les mots de ce coquin qui fut le président des États-Unis pendant 8 longues années, quand il a déclaré une guerre sans fin contre le terrorisme. Qui donc voudrait s'engager dans une guerre interminable, c'est-à-dire un processus de destruction illimitée du monde humain, sinon un être qui, imposant comme infaillible sa politique puisque dictée par Dieu, n'en est que plus insidieusement manipulé par ce qu'il faut bien appeler une pulsion de mort. Par chance, le nain théologien ne peut s'empêcher de montrer par moments le bout de l'oreille. Car quel auteur résisterait au plaisir de laisser, en quelque endroit de sa narration, une trace, fût-elle discrète et contournée, de sa signature? Il parvient habilement à nous manipuler, mais pas au point de ne jamais se trahir. Pour le prendre sur le fait, il nous faut toutefois apprendre à discerner, sans céder à la répugnance, ces peu glorieuses contrefaçons qui nous viennent parfois aux lèvres ou à celles de nos amis. Ce que nous fait savoir notre inconscient n'est pas toujours reluisant. Du moins, si nous avons l'humilité de l'admettre, nous gagnons, dans une certaine mesure, l'avantage de ne plus en être tout à fait la dupe, le ventriloque. Et parce qu'elle aiguise notre attention dans l'emploi des mots, l'écriture prédispose à déceler, pour les déjouer, les leurs de dissimuler dans nos représentations. Ce qui ne va pas du reste sans un gain de jouissance, celle qu'on tire à déceler des fictions parfois grotesques sous les vérités données pour indiscutables. En tant qu'écrivains, que devrions-nous, s'il le faut, nous rappeler? De quelles ressources disposerions-nous pour le faire? Autrement dit, en quoi l'exercice de la mémoire, dans la mesure où il est motivé par quelque nécessité, pourrait-il être relancé, travaillé, enrichi, voire bouleversé par la pratique de l'écriture? Ou encore, est-il raisonnable d'attendre de l'écriture qu'elle contribue de manière à la fois significative et unique à l'exercice de cette fonction humaine indispensable qu'est la mémoire, qu'il s'agisse de la vie intime ou du monde commun? La tâche de l'écrivain, me semble-t-il, consiste d'abord à savoir dresser l'oreille, l'ouvrir toute grande et raffiner l'écoute de manière à la diriger vers l'incessante rumeur des discours telle qu'elle s'immisce dans les mots qu'on croit spontanément les siens. Une telle écoute est requise par quiconque, averti des tours que nous joue le langage, cherche à obtenir l'énoncé et le dire le plus juste. L'écrivain ne se soucie pas de généralité ni de démonstration. Au contraire, il les écarte, tout attaché qu'il est au phénomène singulier. Il va jusqu'à se méfier de ses propres opinions. C'est pourquoi il incline à ralentir le flux du dire en lui, et ce en vue de l'intensifier. Il obtient alors du discoureur familier qu'il est, comme on dit, dans la vie, qu'il cède la place à un autre. Cet interlocuteur secret, selon l'expression de Mandelstam, dont l'écoute est entièrement tournée vers l'écrit en train de se former. Pareil interlocuteur, à mon sentiment, se reconnaît à coup sûr en ce qu'il lance à l'écrivain un défi qui ne peut être que celui de l'amitié. Ne me raconte pas d'histoire, je ne te passerai pas le moindre à peu près. Puisqu'il est question d'histoire, avec ou sans majuscule, de récit, de mémoire, de se rappeler quelque chose, de rappeler, en fin de compte, ce qui serait en danger d'être oublié, perdu, l'écrivain n'hésitera pas à tenir toutes les histoires qu'on raconte pour autant de fiction. Il discernera et appréciera la teneur en fiction inhérente aux représentations que nous nous échangeons pour nous dire notre monde. Il le fera non pour opposer des vérités à des vérités, mais pour tirer de l'oubli l'un ou l'autre de ces innombrables récits qui se transmettent en grande partie à notre insu parce qu'ils se sont déposés en strates multiples et enchevêtrés dans nos langues. Car nous méconnaissons le pouvoir qu'elles ont de nous parler, alors que nous ne les tenons que pour de dociles instruments destinés à la communication. Je reviens à Benjamin. J'ai conscience de faire un certain usage de ses thèses sur le concept d'histoire. C'est à l'historien que Benjamin assigne une tâche. Les problèmes relatifs à la discipline historique ne retiennent pas ici mon attention. Ma visée est tout autre, elle concerne la pratique de l'écriture. L'écrivain serait à sa façon un historien dans la mesure où sa tâche exige de lui, comme je viens de le dire, de la vigilance et de la sagacité quant aux représentations ou aux fictions déposées dans le langage. Dans les thèses, Benjamin met rudement à mal la tenace croyance au progrès. Je ne vais pas reprendre par le détail l'argumentation qu'il développe dans la critique de cette notion. Elle remet en question une conception de l'histoire si ancrée dans notre représentation du temps qu'elle va de soi. Je cite « L'idée d'un progrès de l'espèce humaine à travers l'histoire est inséparable de celle d'un mouvement dans un temps homogène et vide. Un continuum d'événements, si bien que nous sommes irrésistiblement portés à déclarer ce qui est passé, définitivement, rangé qu'il est dans son « il était une fois », conformément à l'image éternelle du passé. Je cite un passage de la cinquième thèse. L'image vraie du passé passe en un éclair. On ne peut retenir le passé que dans une image qui surgit et s'évanouit pour toujours à l'instant même où elle s'offre à la connaissance. Car c'est une image irrécupérable du passé qui risque de s'évanouir avec chaque présent qui ne s'est pas reconnu, visé par elle. Visé comme une cible. Les affaires qui nous occupent, les problèmes qui requièrent nos soins, voire dont l'urgence ne nous laisse pas en repos, eh bien, y faire face avec la plus vive lucidité. Est-ce que pareille détermination ne nous enjoint pas à reconsidérer en profondeur le sens et l'enjeu, le destin de la vie humaine sur Terre? Comment par conséquent ne pas voir là un fardeau qui a été celui de toutes les générations qui nous ont précédés? Un fardeau, oui. Et c'est dire du coup que nous rattrape un passé toujours en souffrance. Le passé nous atteint au cœur même de ce qui alerte notre présent, l'aspiration au bonheur. Dans sa deuxième thèse, Benjamin dit de notre image du bonheur, je cite, qu'elle est tout entière colorée par le temps dans lequel il nous a été imparti de vivre. Et c'est en cela qu'elle est, je cite toujours, qu'elle est inséparable de celle de la rédemption. Il en va de même pour celle du passé. Cette notion de rédemption renvoie à la vision messianique de l'histoire propre à Benjamin. Il serait trop long d'en rendre compte ici. J'estime néanmoins pouvoir en tirer parti dans la mesure où elle donne une forte légitimité à l'aspiration au bonheur, et qu'elle propose, en conséquence, un fil conducteur du plus lointain passé jusqu'à nous. Voici ce qu'écrit Benjamin. Le passé est marqué d'un indice secret qui le renvoie à la rédemption. Ne sentons-nous pas nous-mêmes un faible souffle de l'air dans lequel vivaient les hommes d'hier? Les voix auxquelles nous prêtons l'oreille n'apporte-t-elle pas un écho de voix désormais éteinte? Grâce à cet indice secret, ajoute-t-il, il existe un rendez-vous tacite entre les générations passées et la nôtre. Nous avons été attendus sur la terre. Remettre à l'ordre du jour ce rendez-vous implique toutefois comme condition que l'on cesse d'accorder crédit à cette version de l'histoire qui prétend être conforme à ce qui se serait réellement passé, mais qui n'est au fond, c'est l'expression de Benjamin, que le récit des vainqueurs. Il faut cesser de nous identifier aux vainqueurs si nous voulons faire droit à ce que Benjamin appelle la tradition des opprimés. La tâche de l'historien, tout aussi bien de l'écrivain, consiste, je cite encore, à s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. Le don d'attiser dans le passé, dit toujours Benjamin, l'étincelle de l'espérance n'appartient qu'à l'historiographe intimement persuadé que si l'ennemi triomphe, même les morts ne seront pas en sûreté. Et cet ennemi n'a pas fini de triompher, en 2009 comme en 1940. Cette expression, même les morts ne sont pas en sûreté, est très saisissante. Dans un passage que j'ai supprimé parce que ça aurait été trop long, j'avais évoqué l'expression « devoir de mémoire ». qui a été utilisé d'une manière inadmissible par un député de l'opposition libérale à propos d'une bouffonnerie, ce 250e anniversaire de la défaite sur les plaines des plaines d'Abraham. Vous savez où, à quoi, comment a surgi, pour quelle raison, pour quel motif a surgi à un moment donné cette expression. Même les morts ne seront pas en sûreté. Le devoir de mémoire, il est absolument inadmissible d'en banaliser l'expression, surtout quand c'est pour des calculs étroits de politiciens. Il est quand même important de se rappeler que le 20 janvier 1942, à Wannsee, en banlieue de Berlin, une assemblée de hauts dignitaires nazis, sous la direction de Heydrichs, a décidé de la solution finale. Mais je reprends le fil. Il faut donc rompre résolument avec la représentation d'un temps homogène et vide pour, je cite toujours Benjamin, pour brosser l'histoire à rebrousse-poil et pratiquer un arrêt et blocage du temps. Et alors, ce qui a lieu ici, à présent, peut communiquer avec ce qui a eu lieu dans le passé, même le plus lointain. Car il est possible de rapprocher, dit toujours Benjamin, des événements qui peuvent être séparés par des millénaires. Cet arrêt et blocage du temps donne lieu à ce que Benjamin appelle une constellation. Comme on le sait, une constellation est une figure formée par un groupe d'étoiles tel qu'il nous apparaît dans le ciel nocturne. Rien là d'une réalité cosmique objective. Il s'agit d'une construction symbolique élaborée par et pour l'humanité terrestre. Des années-lumière séparent les étoiles d'une même constellation. Notre regard les rassemble en une seule figure, fortement attractive. Pensez à Orion, par exemple. C'est intéressant de savoir que l'une des étoiles d'Orion est une nébuleuse. Andromède, si je me souviens bien, peut-être je fais erreur. Alors, de cette métaphore, en fait, Benjamin tire vraiment une pensée très féconde de cette métaphore. L'historien, entre guillemets, l'historien a la possibilité, je cite, de saisir la constellation que sa propre époque forme avec telle époque antérieure. Il fonde ainsi un concept du présent comme « à présent ». Qui rappelle un présent visé par l'image du passé. Alors, je vais citer ce passage qui me paraît capital, justement quant à l'enjeu qui nous intéresse ici, ce passage de la 17e thèse. Lorsque la pensée s'immobilise soudain dans une constellation saturée de tensions, elle communique à cette dernière un choc qui la cristallise en monade. Dans cette structure, l'historien reconnaît le signe d'un blocage messianique des événements, autrement dit le signe d'une chance révolutionnaire dans le combat pour le passé opprimé. Il saisit cette chance pour arracher une époque déterminée au cours homogène de l'histoire. Il arrache de même à une époque telle vie particulière, à l'œuvre d'une vie tel ouvrage particulier. Il réussit ainsi à recueillir et à conserver dans l'ouvrage particulier l'œuvre d'une vie, dans l'œuvre d'une vie l'époque, et dans l'époque le cours entier de l'histoire. Je ne commenterai pas, la suite de mon exposé est entièrement travaillée par cette proposition de Benjamin, dans laquelle j'estime tenir une compréhension pénétrante de la tâche de l'écrivain telle que je me la représente. Raconter, sans faire de distinction entre les grands et les petits événements, c'est, écrit Benjamin, faire droit à cette vérité que rien de ce qui eut jamais lieu n'est perdu pour l'histoire. Je ne sais au juste en quoi cette vérité engage l'historien. Par contre, je vois bien qu'elle convient parfaitement à la tâche de l'écrivain. Chacun, je le présume, aura fait au moins une fois cette expérience. être vivement happé par le regard d'un disparu sur une vieille photographie. Pour ma part, je repense à celle d'une arrière-grand-mère. Est-ce fabulation, mais qu'importe, accroché par son regard, je crois y déceler de l'inquiétude. Par-delà sa vie, dont je ne sais quasiment rien, ce regard traverse la durée de 3 générations et me rejoint. Je crois savoir pourquoi. Désormais éteint, il semble dire « J'aurais été une vie, cette vie-là, sous le même soleil qui brille à présent pour toi. » Dans son monumental ouvrage « Mort et au-delà dans l'Égypte ancienne », Jan Assmann évoque une statue funéraire datant du Nouvel Empire installée dans un temple. L'inscription est attribuée à l'épouse du personnage représenté, je la cite. « Nous voulons demeurer ici ensemble, sans que le Dieu nous sépare. Aussi vrai que tu vis pour moi, je ne me séparerai pas de toi. Que ton cœur ne s'inquiète pas de cela, tu dois passer chaque jour dans la détente, sans que rien de fâcheux n'arrive. N'allons pas dans ce pays d'éternité pour que nos noms ne soient pas oubliés. Voir un instant les rayons du soleil vaut mieux que régner éternellement sur le royaume du silence. » Ce que le récit des vainqueurs, avec un aplomb souverain, occulte et surtout délégitime, c'est la protestation, la plupart du temps muette comme honteuse, qui ne s'en élève pas moins contre tant de déni et d'humiliation depuis chaque vie, toute tendue qu'elle est vers l'image du bonheur qui lui a été donné d'entrevoir. L'écrivain a pour tâche, et pour passion, il me semble, de déceler l'indice secret grâce auquel son présent fait constellation avec telle vie qui appelle à être reconnue, rédimée dans le récit qu'il en fait. De quoi devrait-on se souvenir? De choses ou d'événements dont on dit qu'ils sont mémorables, mémorable, comme le dictionnaire le dit, digne d'être conservé dans la mémoire des hommes. Mais d'après quels critères, quelles mesures décide-t-on du mémorable? Virginia Woolf, dans Les Vagues, évoque les phases de l'enfance à l'approche de la vieillesse et de la mort, de la vie de 6 personnages, 3 hommes, 3 femmes. Le récit de chaque phase est à la fois séparé et lié à la précédente ou à la suivante par ce que j'appellerais du texte interstitiel, un tissu conjonctif en somme, qui est une prose lyrique distribuée en 10 strophes, 10 si je compte la brève phrase qui clôt l'œuvre, les vagues se brisaient sur le rivage. Chacune des strophes capte et fait voir un moment de la marche du soleil, de son lever à son coucher, et ce en correspondance avec autant d'âges de la vie. Subtilement, en outre, se superpose au cycle diurne celui des saisons. Parallèlement, depuis le regard en surplomb d'un œil omniscient, par un travelling qui se fait souvent panoramique, on est entraîné du mouvement des vagues au rivage, de la campagne environnante à un jardin grouillant et sonore d'oiseaux, enfin par une trajectoire en zoom-in jusqu'à une fenêtre par laquelle on pénètre, avec les rayons du soleil, dans une maison, dans une pièce. Je lis un extrait de la 3e strophe correspondant au moment où le soleil continuait à monter. Enfin, le soleil arriva à la hauteur de la fenêtre, toucha le rideau bordé de rouge et mit au jour des cercles et des lignes. La blancheur de la lumière naissante siégea au fond de l'assiette. Son éclat se concentra dans le tranchant du couteau. les fauteuils et les buffets se dessinèrent à l'arrière-plan, et bien que séparés les uns des autres, ils semblaient inextricablement entrelacés. Contre le mur, l'étang du miroir se couvrit de blancheur. La fleur vivante sur le rebord de la fenêtre était escortée par un fantôme de fleurs. Dans ces pages, la chose est remarquable quand on les lit d'affilée, nulle présence humaine. Personne n'apparaît, pas même dans la pièce entrevue par la fenêtre. Mais on finit par se rendre compte que l'absence de tout personnage, même épisodique, donne de percevoir et surtout de ressentir intensément, mais autrement, la présence humaine. Dans cette diverse et profuse épiphanie qui la reflète et qu'on appelle le monde. C'est comme si soudain l'assiette, le couteau, le bahut, le miroir ou la fleur, appelés par la variable lumière du soleil qui en magnifie les aspects, criaient muettement ce que nous sommes et que nous sommes dignes de l'être. Il ne me semble pas imprudent de penser que le monde, perçu non comme une vague totalité, mais comme cet horizon qui accorde un spacieux séjour à tel objet de modeste usage ou à tel lieu familier, par exemple cette cuisine d'où émanent enfin l'avant-midi ces vapeurs grasses et ce fumet chaud, que le monde humain donc garde mémoire jusque dans le présent, et nous ne songeons guère à le reconnaître dans ce visage tourné vers nous, garde mémoire de ce qui se propose comme le plus loyal témoignage de notre passage sur la terre. Garde mémoire, pour les vivants, d'une immémoriale patrie entretenue et léguée par des générations d'ancêtres. Ces mots, d'ailleurs, évoquent, sinon mot à mot, du moins de très près, une pensée assez célèbre de Hannah Arendt sur le monde et l'œuvre d'art. Il arrive toutefois que les traces s'effacent. Depuis les années 60, l'émergence du Québec moderne a eu pour conséquence la déconsidération du Canada français et surtout de son espace migratoire qui s'étend à la grandeur de l'Amérique du Nord. Dès le milieu du 19e siècle, et par vagues successives pendant près d'un siècle, des milliers de Canadiens français ont quitté le Québec pour tenter un nouveau départ, sous la pression de la nécessité, bien sûr, mais aussi par goût d'un recommencement. L'Amérique n'a pas toujours été écartée de l'imaginaire des Québécois, écrit François Paré dans Le fantasme d'Escanaba. Dans cet essai, il prolonge ses recherches sur ce qu'il appelle les littératures de l'exiguïté, d'une méditation personnelle sur l'espace diasporal canadien-français. Il esquisse même un récit de migration, celui de la famille de Ferdinand Papineau, un descendant du fameux Louis-Joseph, qui part vers 1880 pour la péninsule septentrionale de l'État du Michigan, une région alors isolée, largement inhabitée, où se sont implantées des industries minières et forestières. La famille s'installe dans la petite ville d'Escanaba, où vit déjà une communauté canadienne-française. L'aînée de la famille, Ida, meurt à l'âge de 15 ans, le 3 mars 1899, le jour de son anniversaire de naissance. Elle n'aura connu de cette vie qu'un espace dans une petite ville en effervescence où la culture lointaine et la langue de ses parents avaient perdu de leur clarté originelle. Cette Ida Papineau, on n'en connaît à peu près rien. Mais voici que la fiction relaie cette maigre vérité historique. L'auteur entend Ida s'interroger sur, je le cite, sur la distance qui la séparait maintenant du Québec. Elle refaisait le trajet de sa mère et comprenait que ce déchirement constituait dorénavant le récit de sa naissance à elle et de sa mort prématurée. Escanaba devient ainsi, je cite, le lieu fantasmé de tous les recommencements identitaires dans l'espace diasporal francophone en Amérique. Mais comment a surgi ce fantasme ou cette fiction d'Escanaba? L'auteur affirme que cette histoire est aussi celle de sa propre errance identitaire. Ainsi, la trace d'une enfant de migrant dont le visage reste à jamais inconnu, une trace presque entièrement effacée, s'inscrit et se rappelle 100 ans plus tard dans le présent de quelqu'un d'autre, comme si elle le visait. Mais cette trace, qui, comme la cicatrice d'une blessure, est ravivée dans la mémoire de l'auteur, est tout de même celle d'une perte, d'un effacement. Comment pourrait-il en aller autrement? L'expérience qu'est l'errance identitaire est proprement celle de l'abandon d'un espace premier, qui donne lieu à des recommencements sans fin. Dans ces conditions, ce qu'on appelle trace renvoie tout autant à ce qui disparaît qu'à ce qui subsiste, apparaît précisément comme disparaissant. Un aussi égarant paradoxe, l'auteur parvient à l'apprivoiser en recourant à la notion de différence telle qu'élaborée par Derrida, différence avec un A, bien sûr. Paré renvoie expressément à un chapitre de marge de la philosophie. Je m'y porte brièvement. La trace n'est pas une donnée qui persisterait identique à elle-même dans ce qu'on tiendrait pour une présence pleine. Ce qu'on appelle le présent, je cite Derrida, se rapporte à autre chose que lui-même. Un intervalle le divise, le séparant de ce qui n'est pas lui, c'est-à-dire un passé, un avenir, pour qu'il soit lui-même. La trace disparaît dans son apparition même, elle s'efface, dit toujours Derrida, elle s'efface en se présentant, s'assourdit en résonnant. La trace, dit toujours Derrida, n'est pas une présence, mais le simulacre d'une présence. Au moment où elle est ravivée, rappelée, la trace est ce qui apparaît en disparaissant, ou ce qui disparaît dans son apparition même. Telle est précisément l'expérience de l'errance identitaire qu'entraîne le déplacement migratoire, une perte des origines. Paré ne peut retracer le passage d'Ida Papineau que dans la mesure où il éprouve comme problématique sa propre identité. J'ai cité un passage que je trouve capital de son essai. Ces cultures de la minorisation auxquelles je m'attacherais mettaient justement en scène des simulacres de la présence. L'effacement. Voilà donc ce que je cherchais à représenter. Ce que cherchait à représenter Gabriel Leroy dans ce grand voyage à chariot couvert. Or, comment ne pas voir que dans l'univers de la trace, la fin et le commencement n'étaient, et pour Evelyne, comme pour son frère Marjorie, et comme pour Christine, et comme qui est la narratrice dans les romans de Gabriel Leroy, donc, et comme pour Christine, et comme pour moi, le dernier de la lignée des migrants, qu'une seule et même destination, un seul et même clignotement de ce qui n'est plus, de ce qui brille littéralement par son absence. L'image vraie du passé surgit en un éclair, disait Benjamin. Comment ne pas penser que pour Paris fait fonction de scène primitive ce grand voyage à chariot couvert au cours duquel les grands-parents de Christine et avec eux Evelyne, la mère, encore enfant, laissèrent derrière eux la patrie québécoise pour recommencer à neuf leur vie, se donner un nouveau séjour sur terre, dans l'inconnu de la vaste plaine du Manitoba. Dans main de ses romans et de ses écrits autobiographiques, Gabriel Roy le reprend souvent, ce récit migratoire. J'en trouve, dans le chapitre éponyme du roman « La route d'Altamont », une saisissante évocation. Au cours d'une randonnée en auto, Christine, la narratrice que sa mère accompagne, s'égare le long de ces routes toutes semblables qui se croisent dans la plaine manitobaine. Survient alors l'inattendu, je cite, « l'apparition d'abord indécise d'une chaîne de petites collines bleues à moitié transparentes. » La narratrice repense alors à celle de la vieille province de Québec dont lui a parlé si souvent sa mère. Je cite, « ce paysage laissé en arrière à l'origine de notre famille. » Et voici que ces collines sont retrouvées. 2 ans plus tard, alors qu'elle cherche à reprendre la route d'Altamont, Christine et surtout sa mère éprouvent une amère déception. Elles aperçoivent bien de vagues hauteurs, mais, comme s'écrit la mère, « ce ne sont pas nos collines, Christine. Tu as dû te tromper de route. » Le petit pays secret est introuvable et cette route d'Altamont n'aura été qu'un songe. La seconde et dernière tentative pour retrouver la route d'Altamont et ses collines a lieu peu avant le départ de Christine pour l'Europe. Comment, avec les incessants départs et arrivées qui font l'espace migratoire, le petit pays secret n'aurait-il pas depuis toujours été laissé derrière? Du reste, écrit Gabriel Roy, du reste, toujours en fut-il ainsi dans notre famille. Une génération alla vers l'ouest, la suivante fit le voyage inversement. Toujours, nous sommes en migration. Ce que j'ai dit d'après François Paré et Gabriel Roy du récit migratoire, ne peut-on pas, jusqu'à un certain point, le dire de n'importe quel genre de récit? On raconterait pour retrouver ce qui s'est perdu, même si l'on entrevoit que le récit sera inévitablement lacunaire, allusif ou encore contestable. Marguerite Yourcenar écrit les mémoires d'Adrien. Le roman est solidement documenté. Pourtant, personne n'ira imaginer qu'il restitue telle quelle la vie de cet empereur romain. Alors, puisqu'il s'agit d'un simulacre, la seule subjectivité impliquée ici serait-elle celle de l'auteur? Mais d'où vient cette si forte impression de vérité que le lecteur en retire? Qu'en est-il du présent tout juste récent, hier, la semaine passée? De même, ces nombreux personnages dont les récits s'enchevêtrent dans les romans, je pense au dernier, le roman « La naissance de Rebecca à l'ère des tourments », dira-t-on qu'ils ne sont que le truchement de la subjectivité de Marie-Claire Blais? Parce qu'il s'agit de simulacres, de fictions, toutes ces œuvres, romans, poèmes, déclarera-t-on avec assurance qu'elles sont le produit des seuls fantasmes de subjectivité closes sur elles-mêmes, et qu'il n'y a rien là d'une vérité universelle? D'envie et destin, Vassili Grossman ne nous ferait part que de ses obsessions? La vérité. J'esquisse une fiction. Monsieur Descartes veut avoir les idées claires et distinctes et trouver la méthode grâce à laquelle il parvienne à une vérité assurée. Il estime tenir au moins l'une de ses idées, celle de son moi pensant. Aucun doute, il existe. Mais que va-t-il faire de tout ce foisonnement de représentations qui l'assaillent à commencer par celle de ses yeux, de sa tête, de ses mains, de son corps. C'est comme ça que c'est décrit dans les méditations. Je cite, « Les sens nous trompent quelquefois, » dit-il. « Et s'il rêvait ?» Car, pas, je cite, « pas d'indice concluant par où l'on peut distinguer nettement la veille du sommeil. » Voici, il ne manquait plus que ça, que s'amène un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur. Comment échapper à son emprise? Notre philosophe ne va-t-il pas se mettre à croire à l'existence de chimères? Heureusement, il peut trouver secours dans ces sciences, je cite, qui contiennent quelque chose de certain et d'indubitable. Monsieur Descartes a bien travaillé, son corps réclame son dû, il ne peut résister au sommeil. Projeté au début du XXIe siècle, on lui présente des chimères obtenues grâce à sa méthode. Enfin, je dis ça rapidement, des chimères transgéniques. Va-t-il pouvoir s'éveiller de ce cauchemar? Une étoile scintille. Je sais bien que ce que je vois, à cause de l'immense distance qui m'en sépare, est son passé. Et pourtant, ce passé-là m'atteint à l'instant. Par saut et blocage du temps, la jonction se fait entre un passé révolu et mon présent alerté, ici, sur Terre. Rien là d'une vérité objective, assurée. L'expression « d'une vie subjective » jamais n'aura pour une autre subjectivité la limpide évidence d'un théorème de géométrie. Plus inquiétante encore, jamais je ne saisirai comme constamment identique à elle-même la présence de mon propre présent. Et, je prends l'expression d'Ernst Bloch, et l'instant tout juste vécu sombrera dans l'obscur. Je ne dispose que de figures incertaines, évanescentes, sans cesse changeantes de celui que j'appelle moi, et j'en perds si souvent la trace. Mais voilà que du plus lointain clignote une image dont l'éclat ou l'écho révèle que c'est depuis ce qui me touche au plus intime, ma propre vie, qu'elle vient de surgir. La vie subjective est irrémédiablement prise dans un réseau mouvant de fictions et de fantasmes, d'où l'irrépressible désir de se saisir d'une image vraie de soi-même. Peu importe que l'on pressente ne pouvoir jamais se l'approprier. Le désir n'en ressurgit pas moins tenace de cerner de plus près cette image dans un récit qui donnerait chance d'en retrouver la teneur. Aussi irréductiblement singulière que soit pour chacun l'expérience qu'est vivre, cette vérité n'en est pas moins commune. C'est pourquoi d'une vie à l'autre peuvent s'échanger des récits. Recueillir ces bribes de récits comme de traces de vie qui s'entrecroisent pour donner forme dans un simulacre de présence, une fiction, l'image vraie de soi dont chacun entretient en lui la nostalgie, voilà ce que peut l'écriture. Et telle est la vérité à laquelle elle tend. J'ai jusqu'ici plus d'une fois employé l'expression « une vie ». Elle ne va pas sans un certain flou. D'une part, ce qu'elle désigne semble pris dans de l'indéfini, l'indistinct d'une rumeur dont elle se détache à peine. Par ailleurs, elle comprend un curieux déictique qui est à la fois indécis ou discret et fermement dirigé. Une vie, celle-là en particulier, pas une autre. L'épiphanie d'une vie, il me semble que tel est l'objet qui suscite notre assentiment lorsqu'on nous raconte une histoire. Il est si vif parfois qu'on en redemande. Gabriel Auroi, dans La détresse et l'enchantement, s'interroge sur la fascination que peut exercer un récit. La narratrice, après avoir raconté un événement drôle à sa mère, et plus d'une fois à la demande de cette dernière, rapporte le dialogue suivant que je cite, la mère. « Après tout, que s'usent les histoires qui racontent la vie, elle-même usure, c'est bien naturel. » Je me sentis vivement révolté. Les histoires usées, que reste-t-il donc? Elle me fit un sourire encourageant. D'autres histoires à inventer ou à bâtir, ou bien la même vieille histoire, toujours, mais refaite à neuf. Je pense avoir alors entrevu pour la première fois de ma vie que mon chemin à venir jamais ne pourrait aboutir justement à ce que l'écrivain, dans sa naïveté ou pour se donner le change, au bas des pages, ça et là, nomme fin. J'ai recueilli dans une autre page de La détresse et l'enchantement le mot qui me semble rendre avec la plus grande justesse ce que j'entends ou ce qu'on peut entendre quand on dit une vie. L'auteur dit du sentiment de la vie que c'est frémir. Une vie, c'est ce qui se perd, finit par s'évanouir pour toujours, mais qui n'en laisse pas moins une trace que l'écriture retrace, bien qu'elle ne reconstituera rien d'un tel que c'est arrivé. Même s'il sait ne pouvoir disposer d'aucune vérité assurée, l'écrivain se risque à en proposer l'image vraie. Car ce qu'il faut bien appeler fiction, ce n'est tout de même rien de moins que la fable des vivants, rédimant ce faible souffle, cet écho de voix désormais éteinte, ce frémissement de chair et d'âme qui est chaque fois celui d'une vie dont la trace clignote dans l'immense rumeur des générations. Écrire, ce serait pouvoir communiquer aux mots un peu de ce frémissement charnel qu'est la vie. Je vous remercie.
Alors, je remercie très chaleureusement Paul Chamberlain pour ce parcours qui, à travers les thèses sur l'histoire de Benjamin, nous ramène sur le territoire de la littérature de cette fiction vraie que peut être l'écriture. Et de cette possibilité aussi, je trouve, c'est une image très belle d'une espèce de communauté des générations. C'est une image qui est revenue à quelques reprises et qui me semble... si on veut raconter la mémoire aussi sur le mode d'une certaine espérance, enfin, Paul a parlé au début du bonheur, enfin, de cette espèce de protestation des opprimés en faveur du bonheur, cette aspiration aussi qu'ils ont à travers les générations. Il me semble qu'il y a, cette espérance de la mémoire là-dedans. D'ailleurs, ça trouve un écho dans une note que je lisais récemment, une note inédite de Gaston Miron. En 1960, il est à Paris et il se promène dans les bars et tout. Tout ce qu'il entend, c'est des récits. Les gens racontent leur vie, les gens se racontent. Et il dit finalement, tous ces récits entrelacés, ces chroniques de vie qui s'entrelacent, vont toujours de la détresse à l'espérance. Enfin, pour lui, raconter, c'est espérer. Et il me semble que ça recoupe un certain nombre de choses que tu as dites, même dans la crainte de l'effacement, cette trace toujours fragile. Alors peut-être qu'il y a des questions, on a un certain temps pour échanger, pour... Tu as beaucoup parlé, au début surtout, de l'histoire des vainqueurs. Bon, et c'est vrai, le récit historique est souvent celui des vainqueurs. Est-ce qu'au Québec, on n'a pas vécu aussi tout autant le récit des perdants? Et est-ce que ce récit-là aussi ne peut pas être aussi fabriqué, aussi trafiqué que l'autre, d'une certaine manière?
Ben, de toute façon, ils risquent de se contaminer l'un l'autre. Si bien qu'on on peut croire dire tel récit alors qu'on raconte l'autre. En fait, Benjamin, évidemment, je ne pouvais pas entrer, vous comprenez, c'est pas un cours, un séminaire de maîtrise ou de doctorat. Benjamin, dans ses thèses ou dans d'autres textes, dit tout de même que ce que l'historien, comme il le voit, fait, c'est il fait une construction, de toute façon. En fait, c'est que si c'est ce qu'il explique un peu. Ben là, il critique, évidemment, il faudrait le situer par rapport à son époque, toute une notion de l'histoire, c'est par empathie avec ce qui aurait eu lieu que l'historien construit, élabore, disons, son récit historique. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que, au fond, on peut avoir une image naïve de l'histoire. Parce que, de toute façon, même dans le récit des perdants, on a nos héros. Et peut-être que précisément nos héros occultent ce qu'on pourrait peut-être appeler les véritables héros. Il y a quand même des historiens maintenant qui ont justement, ici ou ailleurs, qui ont quand même, pour reprendre l'expression de Benjamin, pris l'histoire à rebrousse-poil. Alors, c'est que ça finit par s'imposer, il y a comme une imagerie qui finit par s'imposer. Donc même, c'est pas une boutade, même dans le récit officiel des perdants, je pense que ça y est encore.
Merci encore à Paul Chamberlain pour ce parcours très très riche.
Je vous remercie.